VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 6 juin 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Congo-Brazzaville, libération de 3 militants du mouvement citoyen, le ras-le-bol.
En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle assure que le président Joseph Kabila respectera la constitution qui interdit un troisième mandat.
À Madagascar, l'opposition compte maintenir la pression malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre dit de consensus.
Le département américain du Trésor a mis en garde les alliés et partenaires des États-Unis contre des risques très significatifs s'ils continuent à faire des affaires avec l'Iran.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Congo-Brazzaville, 3 militants du mouvement citoyen Le Ras-le-bol, dont le coordonnateur, Frank Nzila Malembe, ont été libérés hier dans la capitale après avoir été détenus pendant près d'un mois. Ces militants avaient été arrêtés alors qu'ils menaient une campagne appelant à la libération des prisonniers politiques. De Brazzaville, correspondance d'Arsène Séverin.
Les jeunes relaxés mardi en fin d'après-midi sont tous membres du mouvement Le Ras-le-bol, arrêté le 10 mai dernier à Brazzaville. Il s'agit de Frank Nzila Malembe, le coordonnateur national, de Luce Bénédicte Gangwe et de Dadine Sayi. Selon le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, qui les accueillit à leur sortie de la maison d'arrêt, ils sont tous bien portants et en pleine forme. Ils ont gardé un moral de fer car ils savent qu'ils n'ont rien fait d'illégal et du moral, a expliqué à VOA Trésor Nzila Kende. Tout a commencé dans la matinée de mardi lorsque les leaders de la société civile conduite par l'OCDH ont entamé des démarches auprès du directeur général de la police, le général Jean-François Ndengue, et du ministre de la Justice, Ange Aimé Bininga, demandant la libération des jeunes du ras-le-bol. C'est en fin de journée que ce plaidoyer spontané a porté ses fruits. D'après Trésor Nzila Kende, qui a reçu les assurances fermes du ministre de la Justice, les autres membres du ras-le-bol arrêtés le 7 mai à Pointe-Noire devaient être libérés dans un bref délai. Frank Nzila Malembe et ses deux compagnons ont été arrêtés en plein quartier Poto-Poto alors qu'ils menaient une campagne d'affichage des Fidji et dont le message appelait à la libération des opposants politiques en détention. Cette libération intervient alors que s'est ouvert lundi à Brazzaville le procès des compagnons du général Jean-Marie Michel Mokoko. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En RDC voisine, les partisans du président congolais Joseph Kabila ont affirmé hier leur attachement au respect de la Constitution face aux opposants qui mettent en garde contre un troisième mandat. Le point avec Morgane Guériec.
Le porte-parole de la majorité présidentielle, André-Alain Atundu, a déclaré qu'il ne voyait jusqu'à présent aucun acte de la majorité ou du président de la République qui donnera à penser que cette déclaration solennelle du chef de l'État de respecter la Constitution et de ne pas être candidat est en passe d'être violée. Des élections sont prévues le 23 décembre pour remplacer le président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Le président Kabila a dit qu'il respecterait la Constitution sans dire formellement qu'il ne se présenterait pas. Malgré tout, lundi, un collectif de 176 associations a proclamé un texte disant non à un troisième mandat et non à la modification de la Constitution. Des opposants ont aussi demandé au président Kabila de dire clairement qu'il ne sera pas candidat.
Nous aurons en seconde partie de cette édition une interview avec André-Alain Atundu, donc le porte-parole de la majorité présidentielle.
À Madagascar, l'opposition a décidé hier de maintenir la pression en appelant à poursuivre les manifestations malgré la nomination la veille d'un nouveau Premier ministre dit de consensus. Le point avec Jacques Aristide.
La passation de pouvoir entre le Premier ministre sortant Olivier Mahafali Solonandrasan, qui a démissionné lundi, et son successeur est prévue ce matin à Antananarive. Christian Tsai, haut fonctionnaire international, doit former un nouveau gouvernement dit de consensus après injonction de la Cour constitutionnelle. Le MAPAR de l'ancien chef de l'État Andra Joël a revendiqué la paternité de sa nomination alors que les partisans de l'ancien président Marc Ravalomanane dénoncent un acte accompli sans consultation. Les élections générales étaient prévues en novembre et décembre, mais la Haute Cour constitutionnelle a imposé qu'elles se déroulent avant septembre. Les anciens présidents Ravalomanan et Rajoel ont déjà laissé entendre qu'ils vont se lancer dans la course. En revanche, le président R. Rajonarmampian, dont l'opposition réclamait la démission, n'a pas encore annoncé s'il comptait briguer un autre mandat.
Au Mozambique, 7 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines de maisons brûlées dans une attaque attribuée à un groupe islamiste actif dans la région. Le point avec Marie Benson.
Dans le village de Naodé, 7 personnes ont été tuées avec des machettes et 164 maisons ont été brûlées lors d'une attaque qui a fait aussi 4 blessés. Selon le porte-parole de la police mozambicaine, Ignacio Dina, le groupe djihadiste pourrait être le même qui avait décapité des villageois le 27 mai dans la même région. Le groupe de musulmans radicaux, connu sous le nom de Al-Shabaab, avait tué 10 personnes. La police affirme que 9 membres de ce groupe ont été tués. Plus de 300 personnes soupçonnées d'être des proches ou sympathisants ont été arrêtées depuis octobre.
La Cour internationale de justice tranche aujourd'hui le différend entre la France et la Guinée équatoriale. Les deux pays entretiennent des relations tendues après qu'un tribunal français a condamné le vice-président Théodorine Obiang, fils du président équato-guinéen, dans l'affaire des biens mal acquis. Jugée par contumace, Théodorine Obiang a été condamnée en octobre pour avoir pillé les caisses de l'État et avoir acheté des propriétés luxueuses dans les endroits les plus chers du monde.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le département du Trésor a averti hier que les alliés et partenaires des États-Unis feront face, je cite, à des risques très significatifs, y compris la prise de sanctions contre eux, s'ils continuent à faire des affaires avec l'Iran. Selon le département du Trésor, l'utilisation par l'Iran de sociétés écrans et de financements illicites pour, je cite encore, « financer des activités malfaisantes » s'est poursuivie sans relâche même après la signature de l'important accord nucléaire de 2015 dont le président Donald Trump s'est retiré le mois dernier. Les responsables américains s'attendent à ce que Téhéran intensifie ses activités. Ils ont parlé en particulier du financement du terrorisme, des violations des droits de l'homme et de groupes terroristes comme le Hezbollah libanais, le Hamas palestinien et les Houthis yéménites appuyés par Téhéran.
En Syrie, les YPG, principales milices kurdes, ont annoncé leur retrait de Manbij, ville stratégique du nord du pays. Et les États-Unis et la Turquie ont conclu un accord pour éviter une confrontation directe. De nouveau, Marie Benson.
Alors que la Turquie considère cette force kurde comme terroriste, les États-Unis la qualifient d'allié primordial dans la lutte contre le groupe djihadiste État islamique. En mai, Ankara et Washington ont défini une feuille de route pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Le chef de leur diplomatie américaine, Mike Pompeo, et son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu, ont conclu lundi, ici à Washington, l'accord visant à déplacer les YPG à l'est de l'Euphrate. Occupée par les djihadistes du groupe État islamique, la ville syrienne de Manbij avait été conquise en grande partie par la milice des YPG. Les tensions sont ensuite nées entre la Turquie et les États-Unis, Ankara accusant Washington de n'avoir pas honoré un accord bilatéral portant retrait des miliciens des YPG de Manbij. Suite aux opérations de cette milice kurde, le groupe djihadiste État islamique ne contrôle maintenant que 3% du territoire contre 50% en 2016.
En Jordanie, face à une contestation sociale qui ne faiblit pas depuis près d'une semaine, le roi Abdallah a appelé hier à une révision complète d'une réforme fiscale conseillée par le FMI et qui a déjà abouti à la démission du Premier ministre. Si les syndicats ont indiqué que la déclaration du roi était un pas positif, ils ont lancé un appel à la grève ce mercredi et des milliers de personnes ont à nouveau manifesté mardi soir après la rupture du jeûne du Ramadan, comme tous les jours depuis une semaine.
Réunion aujourd'hui à Ottawa entre le président français Emmanuel Macron et le premier ministre canadien Justin Trudeau, et ce juste avant le sommet du G7 au Québec qui s'annonce fracturé par les différents commerciaux avec les États-Unis. Le président américain Donald Trump a décidé d'imposer de lourdes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, y compris à l'Europe, au Canada et au Japon, ses plus proches alliés. En rétorsion, tous ont décidé de saisir l'OMC et annoncer des mesures de représailles, comme également la Chine et la Russie.
Des centaines d'autres maisons ont été détruites par la lave émanant du volcan Kilauea à Hawaï, l'un des plus actifs du monde, ont indiqué mardi les autorités. Nous avons perdu des centaines de maisons à Kapo Beach Lots et Vacation Land dans la nuit, mais nous n'avons pas le chiffre exact, a dit à l'AFP une porte-parole du comté de Hawaï. Les deux derniers quartiers affectés par la lave avaient été évacués à l'avance. Aucune victime n'a pour l'instant été signalé.
Pendant ce temps, au Guatemala, une forte explosion a obligé hier les secouristes à interrompre leurs recherches autour du volcan de feu, 48 heures après son éruption, qui a fait au moins 73 morts et près de 200 disparus. L'éruption a également fait 46 blessés et entraîné l'évacuation de 3271 personnes. En outre, 2625 personnes ont dû être relogées. La catastrophe a affecté à divers degrés un total de 1,7 million de Guatémaltèques. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Bagassi Koura.
Le Mozambique et la Chine ont conclu des accords d'une valeur totale de 100 millions de dollars afin de soutenir le développement du Mozambique et de renforcer les relations économiques entre les deux pays, a indiqué l'agence de presse chinoise Xinhua. Ces accords devraient permettre à l'Empire du Milieu de financer la mise en œuvre de 4 grands projets dans le pays d'Afrique australe. L'État burkinabé compte injecter plus de 800 milliards de francs CFA dans un plan quinquennal pour renforcer la politique de la décentralisation engagée depuis 1991 dans le pays, annonce faite lundi par le Premier ministre burkinabé Paul Kabatiba. Selon l'agence d'information du Burkina, l'État va financer le plan à 45% et les 55% seront assurés par les contribuables des partenaires du pays. Le ministre des Finances sud-africain Lana Nene a été élu au poste de président de la New Development Bank, la banque de développement lancée par les pays membres du groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Selon l'agence Ecofin, son élection a été actée lors de la 3e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la banque, tenue en fin mai à Shanghai. Lana Nene succède à ce poste à Kundapur Vaman Kamat, un banquier indien connu pour avoir transformé en 13 ans la banque indienne ICC en un mastodonte local doté de 100 milliards de dollars d'actifs.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Demi-finale de la COSAFA Cup en Afrique du Sud.
La Zambie face à Madagascar et le Lesotho contre la Zambie, c'est ce mercredi. Hier, lors des matchs de classement, l'Afrique du Sud, pays organisateur, a battu sèchement la Namibie 4-1. Le Botswana a dominé le Swaziland 2-0.
Coup d'envoi de la Coupe du Monde dans 8 jours et l'Iran est déjà arrivé.
Et oui, la sélection iranienne, composée pour moitié de joueurs évoluant dans le championnat local et pour moitié d'expatriés, est la première équipe à être arrivée hier en Russie. L'équipe doit rejoindre son camp de base installé à Bakovka, dans la région de Moscou, qui est aussi le camp d'entraînement du champion de Russie en titre, le Lokomotiv de Moscou. L'Iran, 36e au classement FIFA, démarrera sa Coupe du Monde le 15 juin prochain face au Maroc. Autre match dans ce groupe tant attendu, l'Espagne et également le Portugal. On rappelle que 9 jours avant le début de la Coupe du Monde hier, la Russie a été accrochée à domicile par la Turquie, un but partout en match de préparation.
Tennis surprise à Roland-Garros.
Et oui, la belle histoire de Marco Cecchinato à Roland-Garros n'est pas finie. L'Italien, 72e joueur mondial, s'est offert hier Novak Djokovic en quart de finale. Une victoire 6-3, 7-6, 1-6, 7-6. L'Italien affrontera l'Autrichien Dominic Thiem qui a écrasé le numéro 3 mondial, l'Allemand Alexander Zverev, touché aux ischio-jambiers. Il a perdu le score 6-4, 6-2, 6-1. Et puis chez les dames, Madison Keys a dominé la Kazakh Yulia Putintseva en quart de finale. En 7-6, 6-4, l'Américaine est la première à se qualifier pour les demi-finales dans le tableau dames.
On parle gros sous à présent avec les sportifs les mieux payés du monde.
Le boxeur Floyd Mayweather est le sportif le mieux payé de la planète en 2018 avec, tenez-vous bien, des gains estimés à 285 millions de dollars selon le classement établi par le magazine américain Forbes. Les footballeurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo complètent le podium avec 111 millions de dollars pour Lionel Messi et 108 millions de dollars pour Cristiano Ronaldo. À noter que le Brésilien Neymar est cinquième avec 90 millions de dollars. Le premier basketteur, c'est LeBron James avec 85 millions et demi de dollars.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle affirme que le président Joseph Kabila respectera sa parole, à savoir respecter la constitution qui interdit un troisième mandat. Eh bien, la majorité présidentielle qualifie de procès d'intention, je cite, « toutes les agitations observées dans l'opposition, la société civile et la communauté internationale ». Eddie Isango a joint le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu.
Ce sont des procès d'intention que l'on voudrait prêter et au président et à la majorité, parce que depuis que le président de la République a déclaré devant le Congrès qu'il allait respecter la Constitution en ce qui concerne les dispositions concernant un chef d'État, eh bien, on n'a enregistré aucun acte de nature à entraver ou à contredire cette déclaration officielle. Et donc, tous les gens qui parlent d'un troisième mandat, d'une démarche, etc., mais je crois qu'ils font plus de la provocation. Je ne suis pas loin de soupçonner ces gens-là de n'avoir pas les moyens de se préparer aux élections pour distraire l'opinion par des rumeurs de ce genre.
Mais on voit quand même à Kinshasa et dans d'autres villes des affiches appelant à voter pour M. Kabila, les candidats de la stabilité pour la RDC.
L'état de droit, qu'est-ce qu'il garantit ? Un, qu'il y a liberté d'expression, donc les gens peuvent s'exprimer comme on le fait. Il y a des gens qui disent pas de transition sans Kabila, d'autres qui disent oui, nous voulons de Kabila comme président. Ça fait partie de la liberté d'expression. Mais l'autre fait d'un état de droit, c'est d'avoir un comportement en fonction des dispositions de la loi. En cette matière, la position du président n'a pas changé, son comportement est conforme aux dispositions de la loi, donc vraiment, nous avons mieux à faire qu'à répondre à ce genre de rumeurs. Nous avons comme priorité maintenant l'implantation de nos plateformes électorales dans l'arrière-pays.
Comment expliquez-vous des positions comme celles des penseurs de la majorité, des communicateurs qui élaborent des thèses disant que Kabila peut briguer un autre mandat ?
La voix de la majorité, c'est le président de la République, le secrétaire général et le porte-parole. Tout le reste, malheureusement, nous n'avons pas la faculté de brider la liberté de penser. Mirindi, c'est un chercheur. Il croit qu'il peut trouver une solution dans une situation donnée. Un tel fait cela. Mais c'est un peu comme les autres qui disent qu'il faut une transition sans Kabila, alors qu'ils ont signé l'accord du 31 décembre qui prône le respect intégral de la Constitution, alors qu'ils reconnaissent la primauté de la Constitution. Il faut avoir le sens de la mesure, parce qu'il y a aussi l'ambiance préélectorale.
Préparer les élections ne dit pas que vous n'embrassez pas la thèse d'un troisième mandat. Est-ce que vous garantissez qu'il n'y aura pas un troisième mandat du président Joseph Kabila ?
Si nous avons cette idée, je crois que nous sommes libres de le dire. Le président a donné sa parole d'honneur devant le Congrès. L'accord du 31 décembre 2016 a repris in extenso les paroles du président et a ajouté qu'ayant accompli deux mandats, il ne peut solliciter un troisième.
Comment réagissez-vous face à la prise de position de la France, mais aussi des pays voisins de la RDC ?
Le président n'a pas besoin d'une pression extérieure pour respecter la volonté de son peuple.
C'était André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le Bénin interdit le commerce illicite des produits pétroliers dans les circuits non officiels. Qu'est-ce qui va changer avec cette énième interdiction ? Au micro d'Irénée Herman Ungbo, réponse avec Raoul Oussounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud à Cotonou.
Qu'est-ce qui va changer? C'est que si le pouvoir décide d'appliquer réellement cette loi, on n'aura plus ces étalages de bidons au bord des voies qui jonchent les voies, les rues de Cotonou et les grandes agglomérations du Bénin. Donc on n'aura plus ça. Tout le monde sera obligé d'aller vers les stations. C'est ce qui va changer.
Alors, mais la loi existait déjà. Qu'est-ce qui empêchait son application?
C'était pas réellement une loi, c'était un décret, donc une décision prise par le président de la République, un très vieux décret. Et son application, on l'avait appliquée. Vous avez constaté que sous le régime de Boni Yayi, que sous Kérékou, et la fin de Kérékou, il y a une répression contre ce commerce-là. Porte Novo en garde les séquelles avec des soulèvements un peu partout dans cette ville qui est quand même championne dans ce commerce. Au Bénin, ce qui manque le plus, c'est les stations. C'est maintenant qu'il y a une politique de mise en place des stations-service au Bénin. Au regard de cet état de choses, c'était un peu difficile d'appliquer les tests en matière de répression de commerce illicite de produits pétroliers.
Il y aura un impact énorme sur l'économie puisque beaucoup de personnes vivent de cette activité de vente de carburant frelaté. Que vont-elles devenir à présent? Y a-t-il des dispositions de la loi dans ce sens?
Forcément, il y aura un impact sur l'économie parce que le commerce illicite de produits pétroliers, c'est la plus grosse économie du pays. Il n'y a pas cette rue au Bénin où on ne voit pas les étalages d'essence communément appelés paillons. C'est la plus grosse économie. Et la proximité avec le Nigeria, la parité CFA Naira aussi a facilité la chose et ça absorbe un grand nombre de chômeurs. Ça absorbe un grand nombre. Donc, tant bien que mal, on fermait les yeux sur ça parce que ça réglait aussi un problème social. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sur là? Moi, je ne pense pas que la loi votée, puisque il faut le dire, ce n'est pas spécifiquement voté pour le trafic illicite des produits pétroliers. C'est le code pénal qui a été toiletté. La loi n'a pas prévu de mesures pour ça. Au contraire, la loi a prévu des sanctions pour ceux qui continueraient à s'employer dans ce commerce-là.
Notre confrère Raoul Oussounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud, joint à Cotonou.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La pollution au plastique a été cette année le thème principal de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin. En Afrique, 4 400 000 tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année, selon des chiffres de 2010 utilisés par l'ONU. Le problème des déchets n'est que l'un des multiples défis environnementaux sur le continent africain. Au micro d'Anastasie Toudièche, lors d'un entretien télévisé sur VO Afrique, Adams Tidjani, professeur d'université et fondateur d'Environnement Afrique, a apporté ses précisions.
Les trois défis écologiques auxquels font face le continent, c'est principalement la gestion des ordures ménagères. Dans ces ordures ménagères, je citerai le plastique et nous avons également les eaux usées. C'est un problème d'assainissement. Et pourtant, à y garder de près, tous ces trois types de déchets peuvent être revalorisés pour donner justement des produits qui seraient très utiles à la population.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous citez des problématiques véritablement urbaines.
Absolument. Bon, en général, dans les villages, c'est surtout les résidus agricoles qui posent de sérieux problèmes de déchets. Et les populations ont tendance à les brûler, malheureusement, alors qu'ils ont un potentiel pour les valoriser. Ça peut servir pour régénérer un peu les sols. Ils ont tendance à les brûler, ce qui participe au réchauffement climatique, malheureusement.
Est-ce que vous avez un ou des pays sur le continent qui seraient exemplaires ou qui pourraient être sur la bonne voie en termes de préservation de l'environnement?
Pas spécialement. Bon, je sais que moi, je travaille avec le Maroc par rapport au tri des déchets dans les ménages. J'entends dire que le Rwanda est un bon élève en termes de déchets plastiques, mais je ne suis jamais allé.
Alors, à quoi attribuez-vous ce que vous décrivez comme une espèce de vide politique en termes d'écologie sur le continent?
Je pense que c'est dû principalement au manque d'éducation. À la base, et nous nous battons pour cela, pour justement qu'on introduise des modules écologiques dans le système scolaire, parce que je pense que quand vous avez des populations qui n'est pas éduquée, qui n'est pas conscientisée ou sensibilisée par rapport aux questions écologiques, on arrive à ce résultat. Et je pense que le problème va empirer, parce que malgré nos efforts, à qui nous allons léguer la planète demain? Si nous léguons la planète à nos enfants qui n'ont aucune culture environnementale, ça ne servira absolument à rien. Je pense que c'est là où...
Si je vous entends bien, donc des modules écologiques pour les enfants, mais aussi à glisser peut-être dans les attachés case des responsables politiques. Alors, un projet qui aurait pu rassembler le continent, celui de la Grande Muraille Verte, projet écologique ambitieux. Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Enfin, c'est un projet qu'il faut saluer parce que, bon, je pense que ça voulait donc justement mettre en place une barrière forestière pour lutter contre l'avancée du désert. Ça, je pense, c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect également, ça permettait donc de régénérer les sols et surtout de régénérer les écosystèmes. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a une perte importante de la biodiversité. D'après le dernier rapport, on a perdu pratiquement 40% de la biodiversité. Et quand on sait que la biodiversité est la source principale où les populations vont se servir pour, aussi bien pour la nourriture que pour leur commerce, on comprend l'importance de ce projet. Malheureusement, je pense que l'approche participative n'a pas été bien menée dans le cadre de ce projet. On aurait dû plus impliquer les populations à mon avis.
Alors justement, les populations, professeur Tidjani, et c'est la dernière question que j'aurais à vous poser, comment peut-on faire individuellement quand on est africain pour préserver l'environnement?
Je pense qu'il y a des gestes, ça. Il faut que nous-mêmes, nous soyons conscients. Combien d'entre nous, quand on se brosse les dents, on ne laisse pas couler le robinet? Quand on sort des pièces, on laisse toujours les pièces allumées. Donc il y a des petits gestes écologiques qui n'ont l'air de rien, mais qui additionner sur des millions voire des milliards de personnes pour avoir un impact important. Le fait d'éteindre la lumière, si tout le monde le faisait, en termes de réchauffement climatique, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'eau, le fait de fermer le robinet quand on se brosse les dents, on va sauver donc la ressource naturelle qui est l'eau. Et tout le monde sait que l'eau, d'ici quelques années, sera source de conflits entre les pays.
Adam Stidjani, professeur d'université et fondateur d'Environnement Afrique, joint à Dakar.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, la Cour suprême a lundi donné raison à un pâtissier qui avait invoqué sa foi religieuse pour refuser de vendre un gâteau de mariage à un couple homosexuel dans l'État de Colorado. Pour comprendre les subtilités de cette affaire, Bagassi Koura a joint Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride. Richard Conley commence par la genèse de l'affaire.
Le boulanger, il a constaté que c'était contre sa foi, parce que comme un chrétien, il ne croit pas dans le mariage homosexuel. Et donc, il a refusé de faire le gâteau pour cette occasion spéciale. Et c'est là le problème.
Et il y a d'abord eu une plainte là-bas au Colorado où le boulanger a eu raison.
Non, la plainte était, je ne sais pas comment on l'appelle.
Les droits civiques.
Equal Rights Commission of Colorado. Et la commission a décidé que le boulanger a violé une loi de l'État de Colorado. Et c'est là où la Cour suprême a pesé là-dessus. Et si on regarde comment les juges de la Cour suprême ont jugé cette affaire, on a dit que c'était la commission qui avait tort. Parce que la commission avait cité quelques faits historiques, l'esclavage, l'Allemagne, les nazis, etc., pour caricaturer le boulanger comme un raciste. Et c'est là où la Cour suprême a constaté que le boulanger n'avait pas une justice chez la commission. Donc la Cour suprême n'a pas vraiment dit si on a le droit de refuser les services aux couples homosexuels dans ce cas.
Comme la Cour suprême n'a pas tranché, ça veut dire que des situations, des conflits similaires vont toujours continuer à se poser.
Oui, c'est ça le problème. C'est une décision assez serrée. Et on n'a pas tranché ce sujet. Et on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. On a un autre cas dans l'État de Washington. C'est un fleuriste qui a décidé, il ne voulait pas...
Vendre ses fleurs.
Oui, il ne voulait pas donner les fleurs à un couple homosexuel pour la fête de mariage. Peut-être dans ce cas, on aura une décision plus profonde. Il reste à voir.
Le politologue et professeur Richard Conley, joint à Gainesville, en Floride.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.